Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h,
le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2 sur Canal Sud.
92.2. Présentation lecture de l'anthologie Transfemmes 1, écrire pour les sœurs, avec Ruby Faure, éditrice des Grillages, et des camarades Transfemmes de Toulouse. Le 5 juillet 2023, à la librairie Terra Nova.
Bienvenue tout le monde, ça fait super plaisir de voir plein de monde pour la présentation de l'anthologie Transfemmes. C'est la deuxième présentation qu'on fait. La première était à Paris au Mot à la Bouche et du coup on est super content d'avoir cette occasion. Merci beaucoup Terra Nova pour l'invitation, pour l'accueil, pour toutes les conditions que vous nous mettez en place. C'est super chouette. Alors moi je m'appelle Ruby, je suis éditrice dans la maison d'édition Les Grillages et je vais juste vous faire un rapide déroulé de ça va se passer comment la prochaine heure et demie qu'on va passer ensemble ici. Bon, d'abord, on va présenter un peu qui on est, les personnes qui se sont un peu investies dans cette soirée. Ensuite, je vais vous proposer un petit moment de se constituer une bibliothèque collective des récits transfemmes quand on a rencontré dans nos vies et qui nous ont parlé, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il n'y a rien, mais en fait, c'est sûr que si on met en commun tous les trucs qu'on connaît, il y a plein de choses. On va parler un peu du processus d'édition, de comment ça se fait de fabriquer une anthologie transfemme et comment ça se fait aussi d'écrire des textes, parce que du coup, il y a des personnes qui ont écrit ici dans l'anthologie. Et ensuite, on vous lira des extraits. Donc il y aura un moment de lecture qui est aussi un peu ouverte, en mode scène ouverte, si des personnes ont envie de lire un texte de l'anthologie ou autre texte qui peut se regrouper dans la catégorie vaste littérature transfemme. Et puis on aura un autre moment de discussion et puis si on a encore envie de lire des textes on pourra lire des textes, voilà. Après ça va être un peu en fonction du temps qu'on a. Du coup pour commencer peut-être rapidement quand on a voulu faire cette soirée ici il y a eu un peu l'envie de l'organiser avec l'association Clarté. Du coup on va aussi présenter un peu merci l'association. Moi je vais d'abord vous parler des Grillages, qui est une maison d'édition queer et trans indépendante, qui est une petite maison merci. On est trois personnes, personne ne se paye c'est vraiment le modèle extrêmement précaire de l'édition. On a pour l'instant publié, alors la maison d'édition existait avant en mode en mode pirate, donc c'est circulé des traductions de textes qui n'étaient pas réédités, mais c'était un peu illégal, donc on évite d'en parler maintenant pour pas avoir des ennuis. C'est un appareil d'édition pirate, donc les murs tombent. Et faisait aussi des fanzines, donc il y a plein de fanzines, de petits carnets, il y a toute une micro-édition dans Les Grillages, mais la partie édition de livres a commencé plus récemment, et notre premier ouvrage s'appelait Enculé politique anal, qui était une traduction d'un texte de Pédale espagnol, qu'on aime beaucoup, et qui va être réédité bientôt. Et donc ça, c'est notre deuxième livre, qu'on a co-édité avec Altfem. Donc les camarades de Altfem sont pas là, mais vous pouvez taper Altfem sur internet et vous allez voir un peu tout le travail d'édition fait par Altfem. Donc on a vraiment collaboré là-dessus. Et du côté des Grillages, nous on a on a commencé un peu à se roder là. Maintenant on a un peu une structure qui fonctionne. Et dans les prochains titres, il va y avoir des traductions encore de Halberstam, Female Masculinities, et de Feinberg, Transgender Warriors, de la science-fiction aussi, de la fantasy. Voilà, j'ai perdu pied un peu après dans la suite, mais il y a une sorte de long catalogue comme ça. Puis on commence à recevoir des propositions, donc ça, voilà, c'est aussi intéressant comme processus. Mais on va aller lentement, voilà, donc, parce qu'on n'a pas beaucoup de force et d'énergie. Mais en tout cas, l'idée, c'est de publier des textes importants pour nous, qui font référence pour nos communautés queer et trans principalement. Voilà. Est-ce que tu veux présenter un peu Clarté et l'envie de rejoindre un peu l'orga de cette soirée?
Oui, bah merci beaucoup déjà de m'avoir parlé de ça et d'avoir proposé à Clarté. Après, je tiens à dire qu'en fait, on n'a rien fait. Enfin, on a juste envoyé un mail et fait 2-3 posts. Mais voilà, c'était quand même l'occasion de soutenir, au moins par la présence, et d'encourager cet événement. Et aussi, bah, on a invité une camarade auteure et artiste toulousaine que vous verrez tout à l'heure à performer en invité, donc Illy, que je représenterai tout à l'heure. Et ensuite, bah, juste pour dire 2-3 mots sur Clarté, on est une asso d'entraide et d'autosupport et de défense des droits locales pour les personnes trans. Malheureusement, on est nul en com, donc on a ramené qu'un exemplaire du dépliant. Et vous pouvez le consulter sur place et le prendre en photo, voilà. C'est zéro déchet. Mais voilà, on fait des permanences, des sorties piscine, escalade, permanence sociale. D'ailleurs, petit message, il reste des places pour la permanence sociale de demain soir. Si vous avez besoin d'aide, que ça soit sur des trucs de logement, de papier et tout, pour les personnes trans et non-binaires et en questionnement, n'hésitez pas à écrire à l'adresse mail du pôle social pour prendre rendez-vous demain soir. Voilà. Si vous avez d'autres questions sur Clarté, n'hésitez pas à venir me toper plus tard. Et merci encore pour nous avoir proposé d'être là.
Très bien. Alors, pour commencer, parce qu'on n'avait pas envie aussi de monopoliser la parole au début, c'est pas très poli. On voulait faire circuler un peu le micro, mais je pense plutôt on va parler fort pour essayer de voir un peu c'était quoi vous la première fois que vous êtes tombé sur un récit, soit qui racontait des narrations transfemmes qui vous ont parlé ou fait du bien, que vous avez trouvé intéressantes. Soit peut-être qui vraiment était affreuse, mais quand même c'était la première rencontre avec des vécus transféminins en littérature ou de femmes trans. Peut-être parce qu'on n'arrête pas de dire voilà, il y a cette anthologie, alors parce qu'il n'existait rien, puis on cherche et on trouve rien, et voilà, donc il y a cette espèce d'idée d'un vide, mais peut-être aussi c'est un vide très francophone, peut-être y compris il y a plein de choses qui circulent et que voilà, donc c'était l'idée un peu de si on s'y mettait à tout le nombre qu'on était là. Peut-être pas tout le monde va avoir une référence, et aussi peut-être si vous avez envie de dire ce que ça vous a fait de tomber sur ce récit, sur cette chose-là. Et c'est aussi pour qu'on se fasse une bibliothèque, donc balancer des noms, des titres, comme ça on repart tout le monde avec des pistes. Je te voyais faire oui de la tête, est-ce que tu avais tu voulais commencer? Qui a envie de se lancer? C'est pas forcément francophone, hein, ça peut être des traductions ou des livres dans d'autres langues.
J'ai découvert, je crois que c'était en 2021, j'avais découvert une facture Your Friends and Loved Ones de Tori Petters. Et genre, c'était du coup un récit super intense. Je suis très nulle pour résumer les livres, du coup, je suis en train de chercher des résumés. Mais en tout cas, ça parle vraiment de... C'est une dystopie trans, en fait. Et quand je suis tombée dessus, j'étais juste en mode « Ouais, c'est incroyable !» Et ça m'avait vachement soutenue, alors que j'étais en début de transition à l'époque. Et voilà.
Très bien. Si quelqu'un a le contact direct de Tori Petters, je la harcèle depuis des mois pour qu'on ait les droits pour traduire ce texte. Donc, si vous avez envie de rejoindre le collectif de harcèlement de la camarade de Tori Petters pour qu'elle réponde à ses fucking mails ou DM...
Je veux bien participer...
Pour qu'on puisse le lire en français, parce que les copines sont en train de le traduire, mais si on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Quoi. Trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres qui ont été importantes pour vous? Ouais.
Un, deux. Moi, c'était deux livres dans les littératures de l'imaginaire. Le premier, ça devait être l'autobiographie transsexuelle avec des vampires, mais je pense que de Lizzie Krodegar, que tout le monde connaît, hein, qui est vraiment très très chouette, toujours. Et l'autre, c'était Sous la colline, de Sabrina Calvo, qu'elle a écrit, je pense, juste avant d'annoncer sa transition. Donc, c'était assez chouette. Moi, je me souviens, en plus, j'étais aux Utopiales le jour où elle a annoncé publiquement où elle a fait son coming out. Donc, je vais la voir juste après en dédicace. Moi, j'étais encore dans le placard et tout. C'était un moment assez chouette. Donc voilà. Après, je pense que j'étais quand même trop dans le déni à l'époque pour en faire quelque chose, mais c'était chouette.
Très bien. Pour les personnes qui viennent d'arriver, je pense que c'est possible de s'asseoir devant si vous avez envie, plutôt que de rester debout. Mais voilà. Et on est en train de faire la liste des premières rencontres avec des choses qu'on pourrait qualifier de littérature transfemme dans nos vies. Voilà. Donc est-ce qu'il y a d'autres références ?
Il y a une brochure qui s'appelle Bound to Struggle. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent. Ça parle de BDSM. Et il y a une traduction qui a circulé. Je ne sais pas à quel point elle est trouvable, mais c'est une brochure américaine avec des textes courts. Et il y a notamment un texte d'une personne transfemme qui m'a énormément marqué. Sinon, il y a une anthologie qui s'appelle Transcendent. Américaine aussi, je sais pas la maison d'édition et tout, mais je crois qu'il y a eu 2 ou 3 numéros pareil avec des nouvelles de personnes trans et plusieurs textes transfemmes qui m'ont marqué. Et sinon il y a la poésie de Alok Menon que vraiment je pense je révère beaucoup.
Est-ce qu'il y a d'autres références que les gens ont envie de mettre en commun dans le panier collectif ?
Ça s'appelle Nevada. J'ai plus le nom de l'autrice en tête et j'ai pas de réseau pour le chercher. Mais c'est un peu triste. Ça commence par une rupture, mais c'était hyper chouette à lire. Ça s'appelle Nevada et c'est en anglais et il y a pas de traduction en français.
Moi, je peux dire aussi, je pense, un des trucs qui m'a marqué fort, c'était Kai Cheng Tom, Fierce Femme, donc c'était traduit par Fière Femme, Dangereuse et Magnifique, quelque chose comme ça, qui raconte un peu un gang de meufs trans TDS qui s'organisent pour faire changer la peur de camp, comme ils disent, et qui est assez beau. Je pense évidemment à Les Vilaines de Camilla Sosa, j'ai perdu son nom, Sosada, ouais. Et je pense aussi à pas mal de textes du recueil Afro-Trans qui a été publié par Case Rebelle, qui en fait, dans ces 3 quarts, parlent de vécu transfemme, et certains à travers un prisme aussi littéraire et poétique. Voilà, donc en fait, il y a plein de choses. Voilà, je pense que c'est rassurant de se dire ça dans plein de langues depuis très longtemps. Je pense effectivement, Lizzie Krodegar, ça faisait aussi un truc, une référence pour plein de gens depuis longtemps. Donc voilà, on va pas commencer par dire il y avait rien et il nous manquait quelque chose, mais je pense que c'était quand même quelque chose dans l'appel, notamment publié par Paolé et l'Altfem, qu'il y avait quand même un manque de littérature francophone. Et de visibilité de cette littérature et aussi de peut-être l'envie de rassembler un certain nombre d'autrices qui commencent à écrire, à être publiées. Voilà, il y en a dans le recueil qui ont aussi des ouvrages individuels et d'autres qui commencent à écrire et qui se lancent et qui sont en fait encouragées dans le processus d'écriture par en fait, le processus collectif qui est aussi plus général en France, avec la constitution de collectifs transfemmes, de luttes transfemmes, de communautés. Et que du coup, à l'intérieur de ça aussi, y compris dans se soutenir dans le travail de création, de se partager les écrits, de reprendre son texte et de le publier, ça faisait partie un peu des envies. Alors, comment ça s'est passé ? Donc, Altfem, c'était du coup au départ un compte Instagram et un site internet. Donc, moi, je ne fais pas partie, donc je ne vais pas en parler. Trop longtemps, mais du coup l'idée ça avait été de publier un premier appel à contribution qui s'appelait Écrire pour les sœurs, du coup qui est resté le titre de ce recueil, avec un petit texte qui expliquait l'envie de d'une littérature qui s'émancipe un peu du regard cis et qui puisse, dans un premier temps, dire qu'on va se parler entre nous, voilà, qu'on va se dire les choses que peut-être on ne se dit pas ou peut-être on se dit différemment, mais en tout cas, voilà, de créer aussi un truc plutôt que d'avoir à passer tous les écueils de la représentation pour d'autres, pour faire comprendre nos vécus, mais d'abord d'avoir un channel de communication direct. Donc c'était un peu, je pense, le projet du recueil. Et nous, quand on a vu il y a eu un long travail d'édition de tous ces textes, et ça a été publié dans un PDF qui d'abord circulait, voilà, sous une forme de fanzine imprimé. Moi, j'ai vu sur plein de copines à côté de la table de nuit imprimé sur, voilà, à l'imprimante, sur du A4 en noir et blanc, voilà. Et avec cette petite je sais pas si vous avez vu le briquet là, c'était un peu le symbole, voilà, de cette espèce de briquet tempête, comme proposition d'un nouveau symbole transfemme. Les personnes des grillages en ont fait des espèces d'animations Instagram avec des briquets qui volent. Vous pouvez les reprendre maintenant, apparemment ils sont dans Instagram. Et du coup, oui, en voyant ça, c'est vrai que moi, ça, bon, de venir aussi, moi, de mon côté, du monde du fanzine et des revues, et de commencer ce projet de maison d'édition, ça m'a vraiment donné envie aussi d'un objet livre qui puisse en fait être trouvable dans n'importe quelle librairie aussi de France par des personnes qui ne sont pas forcément connectées aussi au réseau, des infokiosques, etc. Et puis aussi parce que, je sais pas, c'est un peu classe un livre, il y a un côté un peu, ça dure, ça reste, il y a une couverture cartonnée, on se fait un petit design, il y a de la couleur, il y avait un truc de ça fait aussi plaisir d'avoir un livre. Et puis moi, j'étais assez séduite en contactant au début donc Paolé, qui fait partie d'Altfem, par le format d'anthologie, parce que je pense que dans l'histoire queer et dans l'histoire trans et dans l'histoire des minorités en général, ce truc de faire des anthologies à côté des livres individuels, qui sont évidemment des aventures chouettes, il y a quelque chose de très fort, parce que en fait, c'est aussi des personnes qui ne se sont pas forcément autorisées à écrire leurs livres, à adopter le statut d'auteurice, etc., mais en fait, qui écrivent, qui ont une pratique d'écriture, et du coup de se mettre ensemble, ça reproduit un peu ce processus collectif d'organisation qu'on a dans plein d'aspects de nos vies, et ça permet aussi, je trouve, de faire une espèce de quand on regarde des anthologies du passé, ça permet de donner une espèce d'idée de, à cette époque là tous ces gens étaient connectés d'une manière ou d'une autre, ça fait des espèces de cartographie comme ça, enfin voilà. Et moi, j'ai vraiment beaucoup d'amour pour les anthologies, je pense à This Bridge Called My Back. Il y a vraiment beaucoup d'anthologies comme ça, ou les premières anthologies queer aussi, où il y a plein de gens qu'on ne se souvient plus. Enfin, il y a 3-4 personnes qui ont ensuite écrit des livres et fait des carrières ou je ne sais pas quoi. On voit leur nom, mais il y a aussi plein de gens qui ont un peu complètement disparu, etc. Mais qu'en fait, qui faisaient partie des réseaux matériels, créatifs, politiques dans lesquels les quelques noms qu'on a retenus de l'histoire existent. Donc moi, j'avais vraiment cet amour de l'anthologie. Et avec les grillages, quand on a proposé donc à Paolé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réouvert un peu l'appel à contribution pour permettre à d'autres personnes de contribuer. Notamment, on est allé chercher Lizzie. Alors ça aussi, en termes de harcèlement, c'était intense, parce que répondre à ses mails. Mais on y tenait, donc on est super contente d'avoir un texte aussi de Lizzie pour faire le lien aussi avec plusieurs générations. On est allé chercher plusieurs autres personnes. On est allé chercher aussi un texte de Manon Praline, qui est un texte pornographique, parce qu'il n'y avait pas de texte pornographique, et ça nous semblait important que la question de nos orgasmes soit pris en compte dans cette anthologie. Donc il y a ça aussi dans l'anthologie. Et mais on a retravaillé certains des textes, on a refait des arrangements un peu, on a trouvé un ordre. Enfin voilà, on a travaillé à trois vraiment avec Zélie, qui fait partie des grillages, et Paolé de Altfem. Pour le processus un peu d'édition, évidemment, s'il y a des questions, c'est possible. Sinon, je voulais demander aussi à Charlie, qui a écrit dans le livre, si tu as envie de raconter un peu comment tu t'es retrouvé mêlé à ça, et aussi le processus d'écriture.
Bonjour, merci pour l'invitation. Ce que j'ai dit à Paris, et je vais le maintenir ici, c'est vrai, c'est que c'est vraiment Paolé qui m'a tiré par la peau des fesses pour que je sois dans le bouquin. Et du coup, je lui dois beaucoup, je tiens à le remercier. Et ça n'a pas été... J'ai pas été très facile, je pense, ça n'a pas été très facile de travailler avec moi, parce que je n'étais pas hyper disponible. Moi, à Paris, je m'organise beaucoup avec le FLIRT, le Front Transfemme, depuis 2020. C'est comme ça qu'on s'est connus avec Paolé. Ce texte était là, elle le voulait absolument, et j'avais du mal à laisser partir. Et bon, bah, je l'ai fait, j'ai fait un effort pour elle, quoi, un peu comme un acte d'amour, comme c'était écrire pour les sœurs. Ça me paraissait être dans le thème. Et puis voilà, c'était aussi un texte qui revendiquait un truc PD et qui me semblait important parce que dans la communauté, c'était en tout cas l'environnement social qu'il y avait autour de moi, c'était pas évident. Au début du flirt, c'était beaucoup lesbien, on va dire. C'était pas facile d'exister en tant que pédale. Et voilà, du coup, il y avait un petit peu essayer de faire de la place, de représenter et puis de trouver des mots et de se dire ce que ça fait d'exister comme une meuf trans avec une expérience pédale, quoi. Voilà. Et ben ouais, le processus a été super, super bienveillant, super cool. Comme je disais, j'ai pas été super disponible. Non, mais les filles ont été très sympas. Zélie est super. Paolée, adorable. Elle venait nous voir une par une, prendre des cafés avec nous. Vraiment, je ne sais pas comment elle a fait pour faire tout ça gratuitement. Elle voulait vraiment que le texte, que les textes, je pense, parce que ça a été pareil un peu pour tout le monde, soient présents et qu'on puisse en tirer le meilleur, quoi. Du coup, je recommande, faites-le.
Ouais, peut-être juste pour rebondir sur cette hégémonie lesbienne. Non, mais ça faisait partie des problèmes, effectivement, de comment est-ce que, quand on fait une anthologie aussi, on fixe un truc vachement, et comment est-ce qu'on maintient ouvert aussi un truc de, c'est pas de représentation, mais c'est un truc de diversité un peu à l'intérieur de ça. Et du coup, ça joue sur des questions d'âge, ça joue sur des questions de sexualité, ça joue sur des styles d'écriture. Je pense qu'on a essayé dans le recueil d'avoir des trucs qui soient plutôt de la science-fiction, qui soient des choses qui sont plutôt de la poésie, des choses qui sont plutôt mix entre de la fiction et de l'essai. Voilà, un texte pornographique, on l'a cherché aussi, parce qu'on avait envie aussi de multiplier les formats. Donc on a, voilà, en termes d'âge, il n'y a pas une extrêmement grande diversité, je pense, à part Lizzie. Et je pense aussi un des gros échecs, ça a été aussi la question de la blanchité, parce qu'il y a quasiment, pas toutes les contributions, mais quasiment toutes les contributions sont produites par des personnes blanches. Voilà, donc ça, c'est aussi, ça reste des grosses limites de cette anthologie. On a mis numéro une dans l'idée que peut-être on va essayer de, voyez, lancer un processus et que peut-être ça va voilà, petit à petit travailler sur différentes choses au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie un peu processus de fabrication de l'objet avant qu'on passe aux lectures d'extraits? Eh bien, super, du coup, on peut passer un premier moment de lecture. Est-ce que tu as envie de... Qui c'est qui a envie de commencer? Est-ce que... Charles, tu veux lire ton texte ou pas tout de suite? Ou est-ce que Jade, tu veux...
Comme tu veux.
Moi, j'avais envie de lire l'extrait du texte de Mathilde qui est un peu porno, donc peut-être pas pour commencer. Voilà.
Du coup, moi, je vais lire Mario. Je lis en entier. C'est pas si long. Mario. Jupe en plaid, plateforme de travesti, harnais Emmaüs. Une bourse étudiante et pas un sou. Mario intense, comme ses yeux noirs, plein d'images. Mario qui aime les pédales punk à la Vauclair et sentir leur odeur sur ses doigts. Mario sur son vélo, traversant Saint-Ouen pour venir te chercher, pour les soirées de printemps, pour tes lèvres, pleines du goût de cire et des mots de Mario, qui s'est échappé de sa tour pour une pauvre fille comme toi, même pas pédale, ni punk, ni rien. Mario qui remonte la rue à toute berzingue sur son vélo, qui déboule en froissant ta jupe, qui te prend derrière lui et sème des pipasses mâchées dans le vent, les odeurs des puces, un parfum doux, ton cul sur sa selle, une pêche mouillée. Mario, sourire carnassier et tatouage partout. Mario, deux canines aiguisées, deux pointes tournées vers le pôle. Mario qui ne mange pas en ville parce que l'odeur de la viande s'achlingue. Mario, irrévérent comme un chat. Imagine un peu, toute la vie pour ignorer tes maîtres et se taper leur bouffe. Mario déteste son espèce. Mario, avec son paquet de mouchoirs, essuyant son visage avant la préfecture. Je me comprends avec les chats. On vient pas du même monde et pourtant on accepte tout. Mario, devant son miroir, qui arrange son rouge à lèvres. Mario qui se perd dans son image et toi dans la sienne. Mario qui étale son rouge à la main, sa bouche autour de tes doigts. Mario, musique de pédale, douce comme la couette en fleurs sur laquelle tu ris après la baise. Mario, Pet Shop Boys, Niagara, Alaska, l'Elton John de son oncle qui l'a redécouvert. Une chanson qui tourne comme un cri, comme Mario, qui te poursuit au supermarché, qui écume les rayons filles et les chaussures compensées, le petit short qu'il te tend en disant « J'ai envie de te voir, tiens !» L'objet du désir, comme une braise dans tes mains, comme Mario. Dans les toilettes de la mute à 6h de l'après-midi, avec les filles autour qui s'échauffent. Son bras sur la table, son regard tremblant. « Je ne suis pas, » dit-il, sa voix égarée, sa main crispée sur un verre. « S'il te plaît, je ne suis pas. » Mordillant son pouce, un bout de bois. « Non, non. » Tu veux le réconforter et tu te penches. « J'aime pas les meufs, ok ?» Il n'aime pas les meufs. Et tu paniques. Alors tu danses avec toutes les filles autour pour oublier qu'ils se tirent, pour éviter de subir. Pendant que les champs brûlent, un shot de gentiane, un peu de « Yes, girl, t'es trop fab !» Mario, la pédale dure, le chasseur, le goth, la loutre de gym au corps imprimé. Héros et chaos, deux lunes qui battent la rue depuis ses mollets. Mario le dur, pédé, mais pas gay, pas mainstream, pas masque, jamais masque for masque. Pas quand Grindr lui fait baisser le regard à chaque rechute. Au milieu des corps saillants, des messages empoisonnés, des morceaux de peau qui glissent sous ses doigts. Un cadre de verre comme une vitrine, une clôture en forme de miroir. Où mille blanches neiges sacrifient leur virginité. Leur féminité, pardon. Et Mario, des mecs enfermés dans leur placard, une forteresse, un rempart. Une clôture forcée sur les autres comme une camisole. Comme si la différence entre la pédale et l'homme, c'était le macho. On n'a pas le même corps, on n'est pas comme eux, dit son meilleur ami, en te regardant en coin. Deux vipères qui complotent, comme un sifflement, comme la langue, que Mario plongeant ta bouche au beau milieu de la rue. Mario, une force vive, un venin de scorpion. Mario, trou noir qui avale tout. D'après Berlin, l'optimisme nous pousse hors de nous-mêmes vers le monde. Pour Mario, c'est l'inverse, il le consomme. Mario spirale. Mario éclate pour recoller ensuite, comme tes pensées, comme un patchwork, comme son pays. Mario te jette sur le lit en étalant tes vêtements. Ton prince, du haut de sa tour, le doux duvet de sa bouche dans ton cou, sa coupe aux moines, sa robe enveloppante. Quand tu penses Mario, tu sais que c'est toi qu'on effeuille. Et tu te découvres parce que ça, c'est à nous. Rien qu'à nous, dit-il en appuyant entre tes jambes. Et tu le regardes faire avec envie et tu voudrais que ça appartienne à quelqu'un. Tu voudrais te dissoudre dans ses yeux noirs, qu'on te remette dans l'ordre. Et ça vaut bien un peu d'amour, mais ça ne vaut rien si tu n'es pas là. Mario, allongé sur une miraille médiévale, dans son crop top découpé, ses lunettes yeux de chat. Mario, en pèlerinage dans le passé, loin dans le sud. Loin parce qu'il veut te montrer. Mario ne vient pas du Midwest, mais il a traversé l'océan. Il fait la cuisine avec un couteau de boucher, parce qu'il faut bien se débrouiller. Il coupe une tomate rouge comme le sang, comme la mort, comme un continent que l'on a exterminé. Mario vient de loin, mais il connaît ton passé. Mario, au regard si avide, si ferme, quand il entre dans la prison, que tu lui tends la main pour te rassurer. « On a survécu à ça, » dit-il, devant des cachots de l'Inquisition. « Incroyable !» chuchote-t-il. « Nous, des dégénérés. » Et il caresse les barreaux. Les mêmes qui ravageaient les terres outre-Atlantique, enfermaient ici sorcières et sodomites, et tu n'aurais jamais cru ces yeux aussi noirs, aussi effrayants, aussi beaux. Federici dit que les premières luttes contre la privatisation des champs étaient menées par des femmes, des veuves, des sans-époux, des servantes, des vieilles filles, et même parfois des hommes déguisés en femmes. Des monstres comme nous, dit Mario. Imagine Louis XVI tiré de son lit par une bande de travestis. Et tu imagines Mario sur sa barricade, Mario brandissant son talon, son énergie de pédale, et toi sur le côté, hypnotisé. Vivez le rêve, et tu suis Mario qui t'embrasse dans le train et te prend en photo pour te traduire en image. Son langage, Mario qui prend tout, tes habits, tes poses, tes gestes, ton corps. Mario qui t'accroche dans sa bibliothèque, son dictionnaire. Chaque parcelle de ta peau, une nouvelle syllabe. Mario te parle de canines comme des guillemets, comme deux crochets pour extraire et déplacer. Parce que chaque image se produit dans un cadre et chaque cadre doit être renversé. Travestissement du sens de Mario qui répète « Je ne suis pas ça. Je suis quoi, moi? Pourquoi ?» Parce que les larmes glissent sur tes joues, déjà la conversation se loge dans une crise d'angoisse et les sanglots gâchent la photo. Quelle malédiction. Le train arrive au matin et le jour reprend. Tes souvenirs. Mario qui te réécrit 2 mois après, Mario fuyant de chez un amant, Mario traînant entre les bars, perdu, parce qu'où se trouver quand on n'a pas de chez soi. Mario que tu revois anxieux, tremblant, jusqu'au bout des cheveux que tu presses contre tes joues. Parce que tu reconnais ses petits poils de chat hérissés, parce que ça le fait sourire et siffler. Vous deux sur le lit, cherchant au plafond une gravure invisible, sa tête contre ta peau qui continue de s'affiner comme une peau de chagrin.
Alors nous, on a préparé des lectures, mais évidemment, si vous avez envie de lire un passage du livre, si jamais vous l'avez déjà acheté, lu, et que vous avez déjà votre texte préféré, c'est possible. Voilà, c'est même très bienvenu. Il faut juste nous le dire, pour qu'on vous cale dans l'ordre de passage. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà acheté, lu le livre, ou qui l'ont... Ah oui, non, pas tellement encore, c'est une découverte. Très bien, le teasing. J'espère qu'il y en aura assez dans les librairies. Il est déjà un peu comme épuisé. Voilà.
Je voulais lire le début du texte, page 89. Nous, monstres à queue, de Graal. Nous, monstres à queue. Nous, vilaines petites filles, baiseuses du diable, possédantes de posséder. Graal. Et moi qui ne suis pas vilaine, et moi qui ne suis pas étrange, suis-je seulement digne d'être au centre de vos sabbats? Je n'aime pas les regards, je n'aime pas le dégoût. Je ne veux pas prendre feu, mais je veux être une sorcière. Je ne veux pas faire peur, je ne veux pas jeter de sorts, je ne veux pas sortir du lot. Je veux être normale, mais je veux être une sorcière. Si c'est ce que tu veux, peut-être n'es-tu pas si normale. Peut-être. Alors peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais, nous sommes des sœurs, nous sommes des sorcières, des sorcières, peu importe. Paranormal, qui est à côté, en marge de la normale. Surnaturel, qui est au-dessus des possibilités de la nature. Il existe plus d'Américaines racontant avoir déjà vu un fantôme que d'Américaines affirmant avoir déjà rencontré une personne trans. C'est en 2015 que l'activiste Faye Seidler compare ces deux chiffres. 18% ont vu un esprit, 16% ont rencontré une personne trans. C'est absurde et révélateur, mais il reste tout de même une zone d'ombre. Personne ne s'est demandé s'il ne s'agissait pas en réalité des mêmes gens. J'ai l'intuition que notre existence a beaucoup à voir avec la condition spectrale. Certaines personnes croient en nous, d'autres non. D'autres encore, à la question « Y croyez-vous ?» répondront comme Marie du défunt « Non, mais j'en ai peur. » Quoi qu'il en soit, on ne nous voit pas. Bloqué dans un état de transparence permanent, le monde nous passe à travers. Lorsque par chance nous apparaissons du coin de l'œil, c'est la sidération puis l'évaporation, le vide, l'oubli et l'errance. Voilà ce que disent réellement ces chiffres. 16% des Américaines ont déjà rencontré une personne trans, donc 16% des Américaines ont déjà rencontré un fantôme. La question est alors de savoir ce qu'ont réellement vu les 2% restants. Des revenants peut-être. Nos transidentités devraient se sentir en terrain conquis dans le champ du paranormal, mais ce n'est pas le cas. Cette anormalité, au lieu d'être un sanctuaire, a paradoxalement aidé à consolider une normalité autoritaire. Tout en nous stigmatisant, les mythes, légendes et croyances superstitieuses ont mis en place des rapports de force formatés et une domination de la binarité de genre. C'est d'autant plus vrai lorsqu'on s'intéresse aux féminités trans. Voyons. L'être occulte, c'est essentiellement et avant tout la femme. On parle de chasse aux sorcières et non pas de chasse aux sorciers. Les médiums extra-lucides du 19e siècle étaient presque exclusivement des femmes et nous n'avons jamais entendu parler d'autostoppeurs fantômes. La féminité est la figure de proue du paranormal. Et pourtant, puisque les doctrines ésotériques et les différentes mythologies n'ont jamais réussi à se défaire de leur obsession de la vulve, il ne reste qu'un long silence gênant pour nos féminités trans. On nous repousse aux confins de la marginalité et on nous prive de la seule chose qui pouvait encore nous rester, la normalité, pour nous limiter à ce que nous sommes condamnés à être, des anomalies. À une époque où le féminin sacré, c'est être féconde, avoir des menstruations et se reconnecter à son utérus, peut-être pouvons-nous enfin reprendre le pouvoir sur ce qui nous est dit, sur ce qu'on nous est dû, notre transféminin pas du tout sacré, nos propres mythes, nos propres légendes, notre anormalité, enfin. Que je sois clair, les personnes cisgenres n'ont que faire de savoir si les féminités trans, qu'elles soient binaires ou non, peuvent trouver des échos à leurs histoires dans le champ du surnaturel. Ce texte et ses réflexions ne sont pas pour elles. Je veux ici parler de nous, pour nous. Le champ de l'occultisme nous a trop souvent été confisqué alors même qu'il constitue un terrain fertile de représentation et d'expression dans une société où ces dernières nous sont refusées. Nous sommes les féminités à côté de la normale, nous sommes les féminités au-dessus des possibilités de la nature. Cette marge que nous n'avons pas choisie reste la nôtre et nous avons le droit de la réinvestir comme bon nous semble. Au-delà de notre nécessité d'exister au sein d'un système, aussi inadapté soit-il, nous avons besoin de références dans lesquelles se retrouver avec nos blessures, notre fierté, nos spécificités et nos combats. Ces figures du paranormal, de la transgression et de la violence se proposent alors à nous et nous adressent un ensemble de questions dont les réponses sont propres à chacune. Sommes-nous à l'aise dans les représentations féminines proposées par la norme ou préférons-nous incarner l'anormal, l'extraordinaire, la dissidence ? Voulons-nous fuir l'étrangeté dont on nous accuse ou au contraire l'épouser ? Voulons-nous vraiment arrêter d'être des monstres ? Oui, je veux que ça s'arrête. Je n'en peux plus de me cacher dans la nuit, dans les peurs, dans les rêves, dans leurs rêves. Je ne veux plus traîner le drap sale du spectre emplacardé. Je ne veux plus de ces chaînes aux poignets. Je ne veux plus sentir les flammes lécher mon dos à chacun de mes pas. Je ne veux plus sentir le diable marcher avec moi. Je ne veux plus être celle qui effraie. Je veux être celle qui existe simplement pour de vrai. Dans un coin du monde, sans bruit excessif, sans geste inutile, juste moi. Je le veux parce que je suis fatiguée. La bizarrerie, c'est du plomb dans mon corps. C'est lourd, ça pèse. Ça fait rire, mais pas tout le monde, pas moi. C'est un coup que je ne peux pas me permettre. C'est un coup que je ne peux pas recevoir. C'est de la fatigue, tout le temps, même quand je suis seule. Je suis fatiguée et je veux prendre le temps de dormir. Ça ne fait rien. Ferme les yeux et pose ta tête sur notre torse. Laisse notre main sur ta nuque, nous ne t'oublions pas. Tu peux écouter, tu ne peux pas écouter tant que tu te reposes. Tu peux ne pas écouter tant que tu te reposes. Il y a de la place pour toi dans notre sabbat si tu le souhaites, dans la chaleur des braises, dans la protection de nos robes. Nous suivons la même route en prenant des chemins différents et nous nous retrouverons à un carrefour. Alors nous nous endormirons côte à côte et au réveil, peut-être que tu seras un monstre, peut-être que nous ne le serons plus. Mais à ce moment-là, nous serons ensemble, alors peu importe. Vilaine petite fille. Dans une maison, en bordure de champ, de la vaisselle s'écrase contre le frigo. Des ampoules éclatent, des couverts se tordent et la grande horloge va à rebours. La famille tremble, même le père n'ose plus se lever la nuit. Si bien que tout le village accourt pour chasser l'esprit frappeur. Mais surtout, il y a une jeune fille. C'est Frank Podmore, spécialiste britannique en phénomènes paranormaux, qui l'a dit. Il y a toujours une adolescente pleine de mauvaises ondes, pleine de colère et d'hormones, prête à faire exploser vases et vitres. C'est à cause, par et autour d'elle, de sa puberté, de ses règles, de ses névroses, de sa sexualité naissante, tout ce merdier incompréhensible empêche de contenir cette force mystérieuse, sa rage adolescente qui fait sauter les plombs de la maison familiale. Qu'il rassure la population, il n'y a pas de fantôme, car le fantôme c'est elle, c'est la vilaine petite fille. Quand j'étais plus jeune, j'enfilais déjà des robes, je mettais déjà des bijoux et parfois même je me coiffais. Mais jamais, au grand jamais, je n'ai été fantôme. Et ce n'est pas juste, car nous aussi, nous avions de la colère. Nous aussi, nous avions des hormones. Pas celles qu'il fallait pour réveiller les poltergeists, Foutaise. Ma testostérone aurait pu faire s'envoler une maison entière. Carrie a dû voir du sang couler entre ses cuisses pour explorer ses pouvoirs télékinétiques. Parfait. Certaines d'entre nous ont déjà saigné, elles aussi. Parfois bien plus tôt, parfois bien plus abondamment, en tout cas bien assez pour instantanément mettre le feu au lit parental. Mais nous n'avons rien fait, parce que personne ne nous a jamais dit que nous aussi nous pouvions être capricieuses. Pourtant, il faisait tout pour attirer nos mauvaises ondes. Il m'offrait des pantalons, je voulais des jupes. Il me voyait cow-boy, je jouais les princesses. Il me disait « il », je n'écoutais pas. Nous étions tout sauf sages, nous étions celles qui méritaient de faire peur à tout un village. Nous étions les vraies vilaines petites filles. C'était à nous de projeter les cadres photos à l'autre bout de la pièce, certaines l'ont fait. C'était à nous de briser le miroir de la salle de bain, certaines l'ont fait. C'était à nous de gifler papa dans son sommeil, certaines, je l'espère, l'ont fait. C'était à nous d'infester la maison. Bien sûr que les adolescentes cisgenres avaient des raisons de hanter leur père et de faire sauter la télévision pendant les matchs de football, mais l'irruption brutale dans la vie quotidienne, les grands fracas au dîner de la famille, la destruction de l'idéologie dominante, c'était nous. La liberté à tout prix, c'était nous. Les autres gamines se révoltaient mais vivaient normalement. Nous, nous étions à côté de la normalité. Nous étions paranormales, nous étions surnaturelles. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais je vous recommande la fin de ce texte. Du coup, il y a encore 3-4 pages. Et j'ai beaucoup aimé ce texte.
Du coup, il me semble qu'il y avait au moins 2 autres personnes qui avaient déjà, qui avaient aussi envie de lire. Peut-être, du coup, comme il y a pas mal d'extraits, je propose qu'on fasse peut-être un petit temps de discussion avant, et puis ensuite on lit les autres extraits pour conclure. Ouais, du coup, j'avais envie de lancer un peu la discussion sur les stratégies dans la littérature qu'on peut mettre en place pour faire face à la transmisogynie, parce que je pense que c'est une des choses qui peut regrouper cette idée de littérature transfemme, qui est voilà, quelque chose d'un peu flou, mais en tout cas cette idée qu'on bataille avec la transmisogynie à travers des stratégies littéraires, des manières de raconter, de tordre les narrations, de voilà, d'y faire face. Et peut-être voilà, s'il y en a qui ont lu le livre ou par rapport aux autres lectures que vous avez, c'est possible de dire pour vous des choses qui vous semblent intéressantes, des choses qui marchent, des choses que vous trouvez parfois bancales aussi, c'est possible. Mais qu'est-ce qu'on peut faire grâce à la littérature d'une certaine manière pour faire pour déstabiliser, pour faire trembler, pour détruire la transmisogynie. Peut-être juste pour dire une des choses que moi je trouve intéressante dans le recueil, et puis en général, c'est que, j'ai l'impression, bon, de manière générale, les représentations, comment dire ça un peu, on est un peu coincé entre la pauvre misérable et l'héroïne. D'une certaine manière, j'ai l'impression que les femmes trans ou les personnes transfemmes, soit on a des vies tellement galères que voilà, on va être autour du désespoir, de la souffrance, du malheur, de la solitude, etc. Soit au contraire, on est des badass, des héroïnes incroyables, tellement de force, tellement belles, tellement flamboyantes. Et que du coup, ce qui disparaît un peu dans ça, c'est la possibilité de raconter des choses assez banales ou quotidiennes, concrètes, au sens de voilà, ce qui fait du quotidien qui n'est pas dramatique, qui n'est pas tragique, qui n'est pas non plus incroyable. Et ça, je trouve, c'est un truc qui est intéressant, qui ressort un peu dans le livre, un peu des passages de vécu qui sont ni terriblement dramatiques, ni incroyablement héroïques. Enfin, je sais que c'est une des choses, par exemple, qu'avec le livre de Kai Chen-Tom dont on parlait au début, là, c'est génial, mais c'est vraiment des héroïnes, quoi. C'est des super-héroïnes, ça fait plaisir, mais en fait, moi, je suis fatigué. Enfin, la plupart du temps, je n'ai vraiment pas cette énergie-là. Voilà. Du coup, je pense qu'il y a pas mal de textes qui sont pas... qui essaient d'échapper un peu à cette enjeu. Mais je pense qu'il y a plein d'autres stratégies. Je ne sais pas si vous en avez en tête ou si...
Du coup, c'est pas du tout de moi comme analyse. C'est littéralement, je me fais le porte-voix d'une conférence à laquelle j'ai assisté avec Lizzie, qui avait parlé de son projet en fait, Enfant de Mars et de Vénus, qui était un polar fantastique, Et en fait, elle avait parlé d'un truc qui m'avait super marqué, qui était que Enfant de Mars et de Vénus commence par le chapitre numéro 20, un truc comme ça, et qui est un chapitre dans lequel il y a littéralement tous les clichés transmisogynes qu'on peut trouver dans la littérature. Et en fait, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle nous les avait tous expliqués, puis elle a dit « Bon, je vais commencer à vous lire mon bouquin », et elle a lu le chapitre. Et du coup, elle est très bon, voilà, on en est là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que elle a eu vraiment cette approche de dire bah, moi, j'ai fait une autobiographie transsexuelle avec des vampires et j'ai fait d'autres histoires. Et là, j'ai eu envie de m'amuser avec ces clichés et les utiliser comme des ressorts narratifs. Et à l'époque, je n'avais pas lu le livre, donc je me disais mais comment elle fait pour en arriver là? Et après, j'ai lu tout le livre. Et c'était vraiment incroyable, en fait. C'est que. Moi, je ne suis pas une transfemme, donc du coup, je ne jugerai pas de la qualité du désamorçage, mais en tout cas, du point de vue narratif, c'était vraiment impressionnant la capacité avec laquelle elle était capable de transformer des clichés en quelque chose qui soudainement a une explication et qui. Voilà.
Alors, peut-être juste pour rebondir là-dessus, je pense que le texte de Graal, là, ça fait partie des textes qui jouent vachement cette carte-là, un peu d'aller. Jouer avec les stigmates ou se réapproprier les stigmates ou creuser dans les stigmates, les invisibilités, les places qu'on a, les places de pouvoir aussi qu'on peut trouver à se réapproprier, bah, comme là, des figures de monstruosité. Je trouve ça aussi assez fort d'occuper ces places d'abject, quoi, et de dire, en fait, c'est là notre force, c'est là notre mémoire, c'est là notre histoire, et c'est aussi là qu'on existe et qu'on. C'est nos super pouvoirs. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont envie de rebondir sur les défis un peu auxquels on est confronté quand on essaie de faire de la création ou de la littérature et que voilà, on vit dans un monde transmisogyne? Qu'est-ce que ça crée comme stratégie, comme piste?
Du coup, j'ai encore des livres qui me reviennent depuis le début. Le premier, je sais pas, c'est peut-être un peu problématique, mais comme je viens avec la casquette d'autrice, peut-être que je peux dire des trucs problématiques ici. Et c'est Divine de Jean Genet dans Notre-Dame des Fleurs. Et voilà, Jean Genet n'a jamais fait de coming of trans. Enfin, je ne sais pas à ma connaissance, après, je ne suis pas experte. Mais il raconte plein de moments de quotidiens, de moments vécus, parfois extraordinaires, parfois super galériens, et parfois difficiles. Où je me demande à quel point, qu'est-ce qu'il avait comme sujet, comment est-ce qu'il a trouvé ça. Mais je pense notamment à cette scène où elle se fait cloquer par absolument tout le public du bar et qu'il dit voilà, pour un tel, c'est le monstre, pour machin, c'est la pédale, nanana, c'est la grande folle. Et puis elle s'en fout et elle continue à boire son café et elle est super. C'est dur et en même temps, elle est badass. je me souviens de ça. Un autre bouquin qui m'a beaucoup marqué, c'est Le baiser de la femme araignée, j'ai oublié le nom de l'auteur, qui est un auteur, je vais dire des conneries, argentin, El beso de la mujer araña, où donc c'est deux compagnons, compagnonnes de prison, deux personnes qui partagent une cellule ensemble. Il y en a un, c'est un mec 6-7, prisonnier politique, et l'autre, c'est la folle qui a été emprisonnée. Pour un truc pas très clair. Et tout le long, elle lui raconte des films du cinéma qui sont absolument fantastiques, avec des femmes super fortes, super un peu badass, mais un peu qui finissent par se faire taper dessus aussi, parce que c'est un peu ce qui se passe au cinéma. Et ouais, ça, c'était intéressant. Enfin, j'ai trouvé ça très fort d'utiliser. Juste de se projeter, en fait, ce qu'on appelle transpassing cis-woman, quoi. De se dire, en fait, ces meufs-là, elles sont pas forcément trans, mais elles peuvent. Elles ont une monstruosité où elles sont vues comme quelque chose qui nous ressemble, qui nous parle. Et j'en avais un autre. Si l'autre, c'est. Comment ça s'appelle Matador. Mince. Le Mabel, qui a été traduit en français. Le baiser de la femme araignée aussi. Et là aussi, je trouve que c'est le quotidien d'une personne. Bah, encore une fois, le label, je ne sais pas si c'est classifié comme personne transfemme. Pour moi, si, mais évidemment, c'est, voilà, c'est culturel, c'est compliqué. Mais c'est le récit de cette vieille folle du quartier qui aide des militants politiques contre le régime Pinochet et qui fait un peu la bébête. Les jeunes sont, enfin, le jeune en question dont elle est amoureuse l'utilise pour cacher des armes chez elle, et elle fait mine de rien comprendre, parce que ce qu'elle veut juste, c'est qu'il lui donne de l'attention. Et voilà, c'est difficile, mais c'est très beau aussi. Et c'est un roman un peu, enfin, je sais pas si c'est un roman historique, mais il y a en même temps des scènes de Pinochet qui galère dans son coin, qui est super homophobe et tout. C'est un plaisir à lire.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de partager sur ce que peut la littérature contre la transmisogynie ? Un peu d'espoir. Moi, je pense juste à une autre stratégie, deux peut-être dans le recueil. Là, il y a le texte de Louise Bian qui s'appelle Tatata Rollenbeck. Excusez-moi, j'ai... Un soupir de Rollenbeck et une histoire d'une insurrection et de la résistance en fait à l'insurrection. Et dans la résistance, il se trouve que une des leaders de la résistance qui est dans la rue de Rollenbeck, c'est une femme trans, mais en fait, ça n'a pas vraiment d'impact sur le récit. Il y a vraiment cette idée juste de, en fait, il y a des personnages trans qui sont là, mais ça n'est pas. Enfin, et en fait, ce qui est fort, c'est que ce truc-là, elle n'est pas singularisée, elle est à la fois une leader de la résistance, mais quelque part, c'est d'une forme de normalité. Enfin, voilà, c'est évident pour tout le monde que elle a le talent, l'autorité, les compétences pour guider la résistance et l'insurrection. Et c'est un peu fort parce qu'on se dit, voilà, il y a personne qui vient la faire chier. Enfin, voilà, elle est comme respectée un peu. Il y a ce statut un peu fort. Et du coup, ça devient très politique et très fort qu'elle soit pas spécialement décrite par le prisme de sa transidentité. Quoi. C'est juste, elle est là et elle est. Bon, pour le coup, c'est quelqu'un d'assez badass, mais voilà, c'est presque plus pertinent qu'elle soit une femme trans, et ça, je trouve ça aussi un statut assez fort, en fait, quelque part, d'effacer la discussion sur le fait d'être trans, et de, voilà, simplement, il y a plein d'autres dimensions de nos vies qui existent, notamment, voilà, on est des leaders d'insurrection. Ouais. Et bon, parce que ça évoque des choses, il y a des gens qui ont envie de... J'ai réussi à...
J'ai mis du temps. Je sais pas si ça marche. Ça marche ? Ok. Moi, en fait, c'est ce que fait l'anthologie, mais du coup, c'est juste de multiplier le nombre de voix, en fait, aussi simplement montrer que le nombre d'expériences, le nombre de vécus sont complètement différents, le nombre d'intériorités, en fait, de personnes transféminines, elles sont extrêmement variées. Et rien que pouvoir donner cet accès-là, enfin. Il y a déjà pas mal de littérature transfemme, mais que ce soit encore plus trouvable. En français, dans la littérature française, il y en a très peu encore. En bande dessinée, parce que c'est mon milieu, c'est genre catastrophiquement le désert. Le nombre de personnes cis qui se permettent de faire des histoires à la place de personnes trans, ça me révolte. Faut, je pense que la meilleure des stratégies, c'est de prendre notre place dans le milieu de l'édition, en fait, et de multiplier les voix. Voilà.
Trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager ? Ouais, alors, tout au fond. Ouais.
Alors, je ne suis pas concernée en tant que personne transfemme, mais c'est juste pour conseiller le livre Afro-Trans de Case Rebelle, qui est sorti il y a quelques années, et qui justement multiplie les voix, et cette fois-ci des voix de personnes non blanches. Qui vont s'exprimer sur les questions de transidentité, et il y a la question de la transmisogynie, évidemment. Voilà, c'était juste pour rajouter ce livre à la liste.
J'ai pas forcément d'exemple en tête, donc aidez-moi si vous en avez, mais il y a une autre stratégie, moi, que je trouve assez géniale, c'est de décaler le truc et de parler des cis, en fait, et de queerifier des vies de cis, ou bah, notamment de mecs cis hétéros. Enfin, je sais que c'est revendiqué par Alok Menon aussi. Mais j'aimerais. Là, j'ai pas d'exemple de film ou de livre qui me viennent, mais je pense aussi qu'on peut dire beaucoup en parlant de cis, quoi. Des fois aussi, quand il y a des... Ça me fait penser à un autre truc, mais quand il y a des séries ou des bouquins où je suis un peu désespéré du manque de représentation queer, en fait, tout d'un coup, je me mets à m'imaginer que tout le monde est trans dans les personnages. Et genre, en fait, tout d'un coup, ça change totalement le truc, en fait. Et c'est trop intéressant, voilà.
Bonsoir. Je pensais à deux choses. Récemment, j'écoutais une conférence de Rachel Pollack, qui est morte il n'y a pas très longtemps, qui était une écrivaine de science-fiction et une spécialiste du tarot, et où elle utilisait le tarot dans cette conférence comme un symbole du voyage transféminin, Transfemme Journey. Et je pense qu'il y a cette stratégie de réappropriation de mythologie. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très profond, parce que c'est quelque chose qui nous traverse. C'est quelque chose, tout le monde a des cultures, tout le monde est granulairement touché par ça. Et je pense que l'autre chose qui pour moi est terrible et en général fait trembler les personnes cisgenres autour de moi, c'est la dimension d'autonomie. C'est quelque chose qui parle vraiment de soi et qui ne se positionne pas vis-à-vis d'une norme fantasmée. Et ça, c'est... En général, ça fait trembler la terre.
Super, merci. Il nous reste 15 minutes, c'est ça, à peu près ? Il est 20h15. Ouais. Même 30. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'ajouter avant qu'on passe à d'autres lectures ? Ouais, vas-y. Non, moi, je pense juste à bah, du coup, c'est dans le texte de Manon Praline, peut-être dont on lira un bout, mais quand j'ai lu le texte, et l'autrice, c'est quelqu'un avec qui je passe toute ma vie, enfin, je veux dire, on est tout le temps fourrés ensemble, donc mais quand j'ai lu son texte la première fois, j'ai lu, puis après, j'étais là, attends, mais c'est elle trans ou pas elle ? Et puis je revenais comme ça, attends, non, mais... Et du coup, c'est une personne qui rencontre une autre personne, et au début, j'étais là, bah, du coup, c'est une femme trans qui rencontre une femme cis. Après, j'étais là, bah non, peut-être c'est une femme cis qui rencontre une femme trans. Après, j'étais là, est-ce que c'est deux femmes trans ? Est-ce que c'est deux femmes cis ? Et genre, j'étais là, j'ai appelé ma pote, j'ai dit, mais il y a un truc qui n'est pas clair, c'est pas très cohérent ton histoire. Puis après, j'étais là, t'es trop conne, c'est vraiment le truc de. C'est exactement ce que le texte est censé faire. Enfin, je veux dire, du coup, j'ai effacé mes messages, j'avais trop honte et tout, parce que j'ai compris que c'était le but, c'était juste le mindfuck, c'est juste de. Whatever, pourquoi t'es absolument en train d'essayer d'identifier les gens, leur parcours, leurs génitaux, nanana. En fait, c'est une histoire qui parle d'un plan cul sur une bord d'autoroute. Enfin, voilà, mais c'était trop fou que moi, j'étais dans cette projection de vouloir à tout prix des gens qui soient stables, identifiables, et puis pour pouvoir bien comprendre qui couchait avec qui là, et qui a quels organes génitaux. Enfin, c'était moi-même qui étais complètement obnubilé là par une obsession de cis gays, je sais pas, voilà. Donc c'était aussi intéressant ce truc de mindfuck, qui est aussi de faire bouger les identités fixes, enfin les corporéités. Et je trouve que c'est aussi un truc qui casse la tête. Enfin, ça m'a fait du bien, ça déstabilise pas mal. Voilà.
Oui, je voulais reprendre rapidement sur ce que disait Jade. S'imaginer que tout le monde est trans. Et faire le lien avec Johanna tout à l'heure, c'est un peu le thème de Infect Your Friends and Loved Ones de Tori Peters, qui imagine un monde où, du coup, une maladie, je ne sais plus si c'est une maladie, une infection, enfin, voilà, affecte le monde entier et plus personne n'est capable de produire ses propres hormones. Et donc, les personnes cis se retrouvent dans la merde de devoir prendre des hormones et du coup, les trans ont une longueur d'avance. Il y a tout ce truc un peu rigolo là-dessus. Et oui, je voulais expliciter sur les bouquins de Le baiser de la femme araignée et Matador ou Torero, je ne sais plus, j'ai perdu. Je tremble Matador, merci, qui est un roman qui est de Lemebel, qui est un auteur chilien. Dans les deux cas, c'est une meuf trans ou une personne trans féminine qui essaie de troubler sexuellement un jeune mec 6-7 qui s'organise politiquement. En vrai, dans la réalité, c'est quand même toujours beaucoup comme ça qu'on s'organise. Parce que c'est les mecs qui ont les ressources et qui ont le capital politique et social, etc. Et aujourd'hui, par exemple, si on veut faire un collectif et qu'on veut s'appuyer sur un squat, ben, on a besoin de troubler sexuellement un mec 6-7 qui est loin dans la politique. Donc c'est intéressant. En vrai, je pense que c'est des vraies stratégies d'organisation politique qui sont encore applicables aujourd'hui, je pense.
On est passé des stratégies littéraires aux stratégies politiques. Merci Charles. Du coup, ouais, les personnes qui avaient des envies de lire des extraits, qui sont-elles ? Et est-ce qu'elles ont toujours envie ? C'est possible de se rétracter. Hein. 1, 2, 3.
C'est vraiment un tout petit morceau. Mais du coup, c'est extrait de « À l'ombre des six » d'Anne Ferret. Bon, tout le texte est formidable, mais du coup, je voulais juste lire quelques lignes. Et donc, c'était la fin, du coup, histoire de spoiler. « Elles sont toutes encore bien là, mes guerrières, mes galériennes, mes compagnonnes de mauvaise fortune. Défiant les pronostics, pas un nom ne manque à l'appel. Marquée, tordue, cassée peut-être, mais fière et bien vivante. Alors, ravalant mon chagrin, je t'ai souri et j'ai marché à tes côtés. Toi, ma sœur, parmi toutes, ensemble comme promis. On ne réussira pas probablement jamais à renverser l'ordre établi, à faire taire la peur sourde du fascisme et de la répression qui nous menace. On ne créera jamais ce monde merveilleux où l'amour survit à tout et surmonte les obstacles. Mais dans la solitude, la peine, et même dans une profonde et irrémédiable adversité, on peut bel et bien reposer les unes sur les autres, si le besoin s'en fait sentir. Peut-être que je m'étais trompé. À l'ombre des six, les utopies existent.
Lisez-le en entier, il est trop bien.
Ok, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient lu le livre et qui auraient envie ? Ou qui ont ramené leur petit texte écrit sur leur téléphone ? Je sais qu'il y en a qui écrivent de la poésie, là. Pas des poètes, dans le fond, hein ? Non ? Ok, bon, vous avez tout envie d'entendre... Le texte érotique, c'est ça. Je vois plein qui sont là. Ouais. Achetez le livre. Ok, bon, bah, ça va, on y va alors. Donc voilà, si des gens n'ont pas envie d'histoire porno, c'est le temps d'aller fumer une cigarette sur le trottoir. Je lis le début. Voilà. Alors dans les consignes, on m'a dit qu'il fallait lire doucement en faisant des pauses, donc je vais faire ça. Je vais lire vraiment les trois premières pages, quoi. Donc ça s'appelle Affection directe, les aventures porno de Rox, par Manon Praline. Rox se réveille dans son lit. Elle est garée sur un parking un peu planqué à la sortie de la ville. Avant d'ouvrir les yeux, elle se repasse le film de sa journée. Ses cheveux sont mouillés depuis la douche qu'elle a prise avant de quitter l'hôtel. Elle sent encore l'odeur du dernier client qu'elle a enculé quelques heures plus tôt, avant de passer la frontière. Même si ça ne la gêne pas, elle se dit qu'elle aurait pu se laver les cheveux au lieu de juste les rincer. C'est la première fois qu'elle allait bosser en Allemagne. Pas sûr qu'elle reviendra. Elle ouvre les yeux en bâillant, regarde son téléphone. Il est 20h, il fait nuit. Elle allume la lumière et attrape le dernier pain au chocolat qu'elle a acheté après le boulot pour l'avaler en 3 bouchées. Elle se lève, enfile ses sandales, check par la fenêtre qu'il n'y ait personne dehors et sort pour pisser. Elle porte sa robe confortable, en coton gris, avec un petit col en V ouvert sur son sternum. Suffisamment moulante pour qu'on voit ses formes, mais pas trop, sinon elle galère pour tucker. La coupe descend en dessous de ses fesses, juste assez pour cacher sa culotte, à condition bien sûr qu'elle n'écarte pas les jambes. Avant de reprendre la route, elle se cuisine des pâtes qu'elle déguste avec une sauce tomate en pot toute prête et de la mozzarella qu'elle a pêchée la veille. Elle est bien naze et elle aimerait arriver à Marseille avant le week-end, même si en vrai rien ne la presse. En roulant, elle écoute sa playlist préférée et boit du thé. C'est son kiff de rouler la nuit, surtout quand elle est seule. Conduire, c'est presque une méditation pour elle. Ça la calme. C'est comme un espace où elle peut digérer les trucs qui lui arrivent. Il y a le tube de l'été dans sa compile, elle kiffe ce morceau, et quand elle l'écoute, son cul se met à remuer tout seul sur le siège. Au début, c'est un réflexe un peu machinal, mais assez vite, ça l'excite. Quand elle bouge, elle sent les muscles de son trou du cul et de ses fesses qui se contractent puis se relâchent. Elle accentue de plus en plus le mouvement circulaire, ça lui masse le périnée. Le tissu soyeux de sa culotte frotte contre sa peau, c'est très agréable. Elle glisse une main entre ses jambes et garde l'autre sur le volant, en continuant de regarder la route. Du bout des doigts, elle caresse fermement l'espace entre son trou du cul et son sexe. En alternance, elle pousse du bassin contre sa main, presse de la main contre son périnée et se caresse à travers la culotte. Elle fait rouler la peau de son sexe entre ses doigts, pince, chatouille, puis recommence à mettre de la pression en bougeant son boule. Elle aime bien gémir un peu quand elle se touche. Ça la détend et la met dans l'humeur. Elle fait comme les chats. Elle ne bouge plus la main, mais c'est son bassin qui vient se frotter contre. Ça l'excite de bouger son cul. Elle a tout son temps, toute la nuit, et punaise qu'elle a de la borne à faire. Alors ça sert vraiment à rien de se presser. Enfin si, presser le bout de son sexe mou avec ses ongles, c'est ça qu'elle veut. Elle connaît les petits recoins qui font déconnecter son cerveau. À mesure qu'elle gratte rapidement et régulièrement le frein de son gland à travers la peau, elle sent son sphincter qui se relâche, se dilate, s'ouvre. Elle se masse le cul avec le bout de ses doigts et le sexe avec la pomme quand elle remarque un poids lourd immatriculé en Allemagne garé sur le bas-côté. Elle remet sa main sur le volant, freine, éteint ses phares, se gare juste derrière lui et coupe son moteur. Puis elle crache dans sa main gauche, la glisse dans sa culotte et caresse l'entrée de son trou du cul. Comme par habitude, elle se vautre sur le siège en écartant les jambes et en soupirant. Sa main droite vient torturer le bout de sa bite avec ses ongles. Ça ne dure pas longtemps avant qu'elle ne cherche le tube de lubrifiant dans la boîte à gants. Elle en dévisse le couvercle avec les dents, s'en met un gros splotch sur les doigts et l'étale contre son sexe. Elle expire profondément et se mord la lèvre inférieure quand elle glisse un doigt entre son gland et son prépuce. Son cul remue de plus en plus belle et un doigt de son autre main glisse dans le trou. Sa tête se cale contre son épaule gauche, elle a la bouche ouverte. Le doigt dans son cul appuie bien précisément au même endroit par un coup régulier pendant que les doigts de sa main droite pressent en tournant contre la base de son sexe. Le pouce frotte contre son os pubien et la pomme écrase son gland lubrifié. Son cul continue de bouger circulairement, sa respiration s'accélère, tout s'accélère. Ses cuisses se crispent, ainsi que les muscles de ses fesses et tous ceux de son ventre, de ses pieds et de son visage. D'un coup, elle ralentit tous les mouvements, sauf celui des doigts dans son cul, qu'elle accélère. Elle se cambre, son bassin est pris de spasmes, puis se relâche. Tous ses muscles se relâchent. Elle ouvre les yeux, souffle, et reste comme ça sans bouger pendant quelques instants. Quand elle a retrouvé ses esprits, elle s'essuie les doigts avec du PQ en observant le camion garé devant elle, constatant que rien n'a bougé. Eh ben, il est bientôt 20h30, moins 4 minutes. Donc on va pas abuser de l'hospitalité de Terra Nova. Merci tout le monde pour être venu. Merci Ellie, mille fois, pour la performance, la lecture. Merci à Charlie, à Jade et à toutes les personnes qui ont participé, lu. J'ai entendu la rumeur qu'il y avait un bar de Gwyn pas très loin. Si jamais il y avait envie d'aller boire un coup là-bas, puisque j'ai l'impression que le trottoir n'est pas un espace de socialisation très adéquat. Merci tout le monde.
C'était présentation lecture de l'anthologie Transfemme 1, écrire pour les sœurs, aux éditions Les Grillages.
Radio Livre.